France Musique.
Bonjour, c'est Laurent Vallière. Cet été, je vous emmène sur la route américaine de la musique. Un voyage au pays de l'opéra, des psaumes, de la musique minimaliste et du gospel. Un périple en 15 épisodes qui vous emmène de New York à Memphis, de la Nouvelle-Orléans à Big Sur. Go West, la conquête de la musique américaine, c'est du lundi au vendredi à 17h sur France Musique et francemusique.fr.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bonjour, soyez les bienvenus sur France Musique dans nos programmes d'été. Un réveil en douceur pour retrouver dans un instant Musique Matin et notre cher Gabriel Oliver Aguillon. C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Oliver Aguillon, Musique Matin.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mardi 24 août. J'espère que votre nuit a été bonne. Toute l'équipe de Musique Matin vous accompagne jusqu'à 9h avec, s'il vous plaît, Brahms, Moulinier, Juan Gilberto et puis Lully. Et bien sûr, nos rendez-vous habituels à 8h30, notre invité du jour, le contre-ténor Damien Guillon pour une série de concerts dont l'oratorio San Giovanni Battista d'Alessandro Stradella qu'il va donner avec son banquet céleste ce vendredi à Sinfonia en Périgord. À 7h40, dans 10 minutes, notre revue de presse et le reportage du jour sur l'Opéra Bus avec l'ensemble baroque Harmonia Sacra qui sillonne tout l'été la région de Cambrai et donne des concerts dans un bus. À 7h50, comme chaque matin, tentez de gagner des disques et aujourd'hui, n'espérez plus mes yeux, dernier disque des Arts Florissants dirigé par William Christie. À 8h, évidemment, un point sur l'actualité avec le journal d'Olivier Denray. À 8h10, notre tour de France des festivals, direction la Sarthe pour le festival de Sablé-sur-Sarthe. Et puis à 8h25, place à la création avec la compositrice Nadia Ratsimandresi pour son œuvre Nuages. Et puis, il faut bien commencer la journée. Sortir du lit, aller voir le monde ou amener les enfants au centre de loisirs, pourquoi pas. Alors, nous nous sommes dit qu'un réveil avec Jean-Sébastien Bach serait des plus doux. Un petit matin à 7h32.
Thank you.
La sicilienne de la sonate en mi bémol majeur BWV 1031, écrite originellement aussi bien pour flûte que pour clavier, une œuvre de Jean-Sébastien Bach à l'instant, interprétée par David Bismuth. Le festival de Gstaad bat son plein en ce moment, un festival à Sannen en Suisse qui a commencé le 16 juillet mais encore beaucoup de concerts jusqu'à la clôture le 4 septembre et par exemple le 2, jeudi prochain, jour de la rentrée scolaire pour les écoliers en France, à 19h30, deux grands spécialistes de la musique baroque, la chef et violoniste Rachel Podger et le flûtiste Maurice Stedger qui se retrouvent à travers un programme imaginé spécialement pour le festival de Gstaad, non seulement de rendre hommage à une cité Londres, mais aussi une merveilleuse musique avec au programme Purcell, Scarlatti, Simpson, Johnson ou encore Nicolas Matteis, un compositeur italien, oui, mais qui, dès ses 22 ans, en 1672, s'établit à Londres. Ensemble Palladian dans ce Ground en ré majeur de Nicolas Matteis, arrangé pour violon, flûte à bec, violoncelle et guitare baroque.
C'est l'été sur France Musique.
7h39, le moment pour nous d'ouvrir les journaux aux pages culture et pourquoi pas avec un autre café, c'est notre revue de presse. La presse ne parle que de ça, la nouvelle historique. À lire entre autres sur Télérama.fr, Joséphine Baker, la première femme noire à entrer au Panthéon, et ça nous enchante. Et puis bien sûr France Musique qui propose un portrait vidéo et émission à réécouter aussi à la date du 3 juin dernier, journée Joséphine Baker sur notre antenne, à l'occasion de la pétition de son entrée dans ce grand temple républicain. Résistante, militante, antiraciste, Joséphine Baker est née en 1906, morte en 1975 et devient ainsi la sixième sixième femme à rejoindre les grandes personnalités qui y sont inhumées. L'artiste franco-américaine entrera le 30 novembre au Panthéon, ce lieu dédié aux personnages ayant marqué l'histoire de France. Dossier complet sur francemusique.fr. Le Monde nous apprend hier la mort à 84 ans de Don Everly, le second membre du duo de country Everly Brothers et pionnier américain du rock et de la country. Avec son frère Phil, mort en 2014, ils forment dans les années 50 ce duo mêlant justement rock et country qui influença toute une génération de groupes dans les années 60, à commencer par Simon & Garfunkel, les Beatles, qui au début de leur carrière, justement John Lennon et Paul McCartney, se faisaient surnommer les Four Everly Brothers. Le duo a enregistré son premier disque en 57, chantant en chœur des mélodies de musique de leur Kentucky natale mêlées de rock. Leur musique a donc influencé plein de gens et avec cette façon également de chanter en harmonie. Leur influence dépasse même leur renommée, avait écrit Paul Simon dans le magazine Rolling Stone, qualifiant le duo de plus important de l'histoire du rock. Une de leurs chansons d'ailleurs, Made to Love, sera reprise en 1962 par Claude François qui en changera les paroles, sous le titre Belle, Belle, Belle. Et puis Le Point nous raconte via France Bleu la folle histoire d'un piano de la Seconde Guerre mondiale en Haute-Loire. Alors qu'elle souhaite vider sa maison, une habitante de Brive-Charensac en Haute-Loire a remonté le temps en s'intéressant à un piano. Cet instrument a été offert à ses arrière-grands-parents par la famille Pinguet pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette famille juive avait trouvé refuge dans la cave de cette famille, de Mylène Bernard. Et ils avaient ensuite retrouvé la liberté. Mylène Bernard souhaite désormais retrouver cette famille et pourquoi pas leur restituer le vieux piano. Elle lance une bouteille à la mer dans l'espoir de retrouver la famille juive que sa famille a cachée entre 42 et 44. En 44, la famille recueillie a repris sa route, cédant donc le piano à ses hôtes pour les remercier. Après la guerre, la famille Pinguet avait envoyé une lettre à mes arrière-grands-parents pour leur dire qu'ils étaient libres et vivants, écrit Mylène. Alors je m'en remets aux mains multiples des réseaux sociaux pour les lier jusqu'à celles de cette famille. Si elle explique avoir quelques pistes, la famille Pinguet n'a pas pu encore être retrouvée. Et puis enfin, Res Musica rapporte que le français Thomas Lefort est finaliste du concours de violon Isaac Stern. Lancé en 2016, cette compétition internationale de violon Isaac Stern à Shanghai n'a pas pu se tenir en 2020. La troisième édition du concours reporté cette année vient d'annoncer enfin hier ses finalistes sélectionnés sur 102 candidats de 31 pays différents. Et donc le français Thomas Lefort de 27 ans fait partie des 6 qualifiés pour la finale qui aura lieu l'an prochain à Shanghai. Une compétition à suivre donc dans les prochains mois. Des airs de musique baroque dans un bus, eh bien, c'est le pari de l'ensemble Harmonia Sacra, des musiciens qui sillonnent la région de Cambrai dans le Nord tout le mois d'août à bord de l'Opéra Bus, un véhicule transformé en salle de concert ambulante. L'Opéra Bus existe depuis 2015, mais c'est la première fois qu'il fait une tournée aussi longue à la rencontre des habitants qui n'ont pas forcément accès à la musique classique. Paris réussit. Louis-Valentin Lopez, un argument de plus pour franchir les portes de l'Opéra Bus. Voici donc son reportage.
De l'extérieur, on dirait un bus tout ce qu'il y a de plus normal, un siège à l'avant pour le conducteur, mais la ressemblance s'arrête là car tout le reste du bus a été entièrement réhabilité pour ressembler à une salle d'opéra. Éléonore Minot, chargée de médiation pour Harmonia Sacra.
Des fauteuils rouges qui ressemblent un peu au siège qu'on peut trouver dans une salle de concert. Il y a une loge en fait pour que les artistes puissent se changer. Une petite scène, je crois qu'elle fait 1 mètre sur 2 mètres, quelque chose comme ça. De la peinture, des dorures, ensuite les murs sont aussi en rouge, et puis après la scène en noir avec les rideaux rouges qui s'ouvrent et se referment. Et du coup le but c'était que ça ressemble le plus possible à ce qu'on peut voir à l'opéra.
Et l'illusion est quasiment parfaite, le cadre étonnamment opportun pour chanter des airs de cour. C'est ce que nous confie la soprano Caroline Arnaud.
Quand je suis arrivée dans le lieu, j'ai été assez estomaquée du travail accompli et du coup du dépaysement quand on rentre dans ce bus qui n'en a plus l'air du tout. Le travail acoustique a été assez impressionnant, j'appréhendais pas mal. Là, l'acoustique est quand même très agréable. Il y a eu un beau travail, il y a beaucoup de choses en bois, ça a été très bien fait. Et ça nous offre une intimité, une proximité avec le public qui est quand même assez inédite, surtout sur cette musique qui elle-même est très intime.
Il faut dire que la capacité est réduite à bord du bus. 29 places, de petits concerts d'une demi-heure tout au plus, et donc une grande proximité. Une expérience qui au départ peut être déroutante, nous dit Diego, qui joue du théorbe.
Le premier rang de la salle, entre guillemets, lorsqu'on est dans le bus, il est à moins d'un mètre de moi lorsque je joue. Donc c'est vraiment une situation de concert qui nous est totalement inédite. Il y a quand même une relation très particulière qui se crée, non seulement par cette proximité, mais par le partage beaucoup plus immédiat qu'on a de la sensibilité qu'on peut recevoir du public, la perception, les émotions qu'on peut ressentir beaucoup plus que lorsqu'on se trouve sur scène et qu'on a une très belle salle devant nous, mais que le public est loin de toute manière.
Un public souvent intrigué par cet opérabus qui détonne dans le paysage. Apporter la musique classique là où on ne l'entend pas, c'est exactement l'objectif d'Harmonia Sacra, explique Éléonore Minot.
Souvent des habitants, soit de la commune même, soit des communes d'alentour, voilà, qui soit n'ont pas les moyens financiers ou on va dire de véhicules, enfin de pouvoir aller en fait à un concert, soit se disent que la musique baroque, ça leur parle pas trop. Donc la chance du bus, c'est d'être directement sur la place du village. Et ça fait un peu moins peur de s'installer sur un siège dans un bus plutôt que d'aller dans une grande salle de concert ou même dans une église. Tous les gens qui y ont assisté sont toujours sortis ravis et très contents qu'on les oublie pas et qu'on vienne jusqu'à chez eux pour leur proposer ce type de musique.
Sans compter que les représentations sont gratuites, un argument de plus si vous passez par la région de Cambrai pour franchir les portes de l'Opéra Bus.
Et l'opération intitulée « À plus dans le bus » s'achève ce vendredi dans le Cambrésis. Reportage de Louis-Valentin Lopez et les détails à retrouver sur notre site internet francemusique.fr. Bienvenue sur France Musique, il est 7h46.
Teu mal é comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar o nosso destino. O peixe é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar pra depois condenar. Quando o infortúnio nos bate à porta e o amor nos foge pela janela, a felicidade para nós está morta. Não se pode viver sem ela. Para o nosso mal não há remédio, coração. Ninguém tem culpa da nossa desunião. Teu mal é comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar o nosso destino. O peixe é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar pra depois condenar. Quando o infortúnio nos bate à porta e o amor nos foge pela janela, a felicidade para nós está morta e não se pode viver sem ela. Para o nosso mal não há remédio, coração. Ninguém tem culpa da nossa desunião. Para o nosso mal não há remédio, coração. Ninguém tem culpa da nossa desunião.
Segredo, une chanson d'Erivelto Martins et Parino Pinto par la voix de la bossa nova João Gilberto. Et oui, vous reconnaissez cet habillage sonore. C'est l'heure de notre jeu à 7h50 comme chaque jour. Des disques à vous offrir, des disques en partenariat avec France Musique et donc qui nous plaisent beaucoup. Vous en voulez ? Alors, à vous de jouer. Et je vous laisse vous diriger vers notre site à la page de notre émission Musique Matin. Vous cliquez sur l'onglet « Contactez-nous » pour participer, répondre à la question que je vais vous poser. Ce matin, à gagner le disque « N'espérez plus mes yeux par les arts florissants » dirigé par William Christie, un disque sorti cette année, paru chez Harmonia Mundi. Alors nous recevons toutes sortes de réponses, des bonnes, des mauvaises, des petits mots, des bonjours matinaux, des encouragements, des confidences. Bref, merci pour votre participation et ces échanges avec nous. Voilà la question ce matin. Actuellement et jusqu'à ce samedi 28 août a lieu la 10e édition du festival dans les jardins de William Christie en Vendée, dans la propriété qu'il a achetée à Thiré précisément, lieu où ont lieu les concerts. William Christie, amoureux des plantes, des fleurs et de ce jardin qu'il aménage, un jardin comme il le rêvait depuis très longtemps, il a acheté donc cette propriété. Mais en quelle année a-t-il acheté cette propriété, cette maison à Thiré, William Christie? En quelle année William Christie a-t-il acheté sa propriété à Thiré en Vendée où ont lieu les concerts de son festival? En 1972, en 1985 ou en 2000? William Christie a-t-il acheté sa propriété à Thiré en 72, en 85 ou en 2000? Eh bien, je vous laisse répondre. Je donne la bonne réponse juste avant 9h avec le nom des gagnants. Et en attendant, nous allons écouter un extrait de ce disque des arts florissants. Souffré, beaux yeux pleins de charme d'Étienne Moulinier.
Souffrez vos yeux pleins de charmes qui me consomment le cœur, que mes soupirs et mes larmes fléchent sur votre rigueur.
Espagnol, je te supplie, laisse-moi vivre en repos. Tes yeux pleurent de la cire, tes soupirs sentent les os.
Je front tourné de gloire, n'avez-vous point mémoire de la voix-vous autrefois?
Oui, j'ai vu votre visage, il me souvient à Paris. Vous sentiez plus le fromage que le muscle et l'ambre gris.
Moi qui suis sous les charmes et triomphe en tout lieu, invincible en tant d'alarme, je suis vaincu par vos yeux. Pour toute récompense et près de mon amitié, je vibrerai chaque espérance et vous vibrerai chaque pitié.
Votre amitié sans seconde ressemble à un soleil qui fait tout le monde sans rencontrer son.
La France qui me possède dans tout le pays, vos yeux à qui le jour sert, ne méritiez que pour vous.
Avoir votre contenance, ce qui vous tient au collet, vous a fait venir en France sans finance et sans valet.
Si vous rendez moins amère la douleur, je me plaigne, et par qui me reverre, tout jamais je n'allais plaigne.
Les voix d'Emmanuel de Négri et Cyril Ovitti avec les Arts florissants, dirigés par William Christie dans cette terre. D'Étienne Moulinier, souffrez, beaux yeux pleins de charme. Un extrait du disque que nous vous offrons ce matin, N'espérez plus mes yeux, air sérieux et à boire, volume 3. Il me semble que celui-là c'était un air à boire. Un cinquième et dernier mouvement galvanisant, c'était l'Allegro non troppo de la symphonie gothique opus 23 de Benjamin Godard, éloigné du modèle germanique et plutôt comme un pastiche de la musique baroque. C'était à l'instant l'orchestre de la radio de Munich, dirigé par David Ryland. Musique Matin, nous revenons dans quelques instants.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui ? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
Bonjour à tous. Du lundi au vendredi, de 12h à 13h, l'agenda de l'été, c'est votre agenda. Des festivals, des dates, des bons plans, des places à gagner, il y en a forcément pour tout le monde, partout en France, et puis surtout, de la musique, beaucoup de musique. Alors, à vos carnets, c'est tous les midis sur France Musique et francemusique.fr.
Mardi 24 août, l'heure du journal sur France Musique, il est tout juste 8h. Journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. Hors de question de ne pas respecter la date butoir du 31 août. Pour les talibans, c'est une ligne rouge. Les Américains devront avoir quitté le pays au plus tard à la fin du mois. Hypothèse irrecevable pour plusieurs grandes puissances occidentales qui estiment que les évacuations des réfugiés et de leurs ressortissants ne seront pas terminées d'ici là. La question d'un délai supplémentaire dominera donc tout à l'heure le sommet du G7 réunion virtuelle à laquelle participe cet après-midi le locataire de la Maison-Blanche, mais aussi les secrétaires généraux de l'OTAN et de l'ONU, Bertrand Galichet.
Entre les menaces des talibans et la pression des Occidentaux qui ne croient pas à une évacuation totale de leurs ressortissants et employés afghans d'ici le 31 août, Joe Biden est pris en tenaille. Lors de ce G7, plusieurs pays directement concernés par l'Afghanistan, dont la France et le Royaume-Uni, demanderont à Washington une prolongation des opérations d'exfiltration. Malgré l'accélération du pont aérien et en raison du chaos qui règne à l'extérieur de l'aéroport, ces pays redoutent que l'objectif de l'évacuation ne puisse être tenu d'ici une semaine. L'Allemagne, elle, voudrait que l'aéroport de Kaboul reste accessible au-delà du 31 août, mais discute avec les talibans du fonctionnement des installations après le retrait des États-Unis. Face à cette inquiétude du G7, Joe Biden tente de persuader que la montée en puissance du pont aérien permettra d'éviter une prolongation de la présence américaine. Peut-être une façon d'esquiver le refus catégorique des talibans sur ce sujet. Le G7 tentera aussi de se coordonner sur l'attitude à adopter à l'avenir face aux nouveaux régime en place à Kaboul. Le Canadien Justin Trudeau veut des sanctions contre les talibans, comme la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais Washington et Paris attendent surtout de savoir comment se comportera le nouveau régime.
Un régime qui a laissé partir ces 12 dernières heures 11 000 personnes environ. Elles ont été évacuées d'Afghanistan via l'aéroport de Kaboul où des milliers de familles terrorisées patientent avec l'espoir de pouvoir à leur tour prendre un avion pour quitter le pays. Le Parlement tunisien n'est pas prêt de rouvrir ses portes. Le président du pays vient en effet de prolonger la suspension de ses activités et ce jusqu'à nouvel ordre. Kais Saied, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier, devrait prendre la parole dans les tout prochains jours. Le chef de l'État semble pour l'instant conserver le soutien d'une grande partie de la population. Alors que l'OMS plaide toujours pour une meilleure vaccination dans les pays les plus pauvres et donc une meilleure répartition du vaccin sur l'ensemble de la planète, la France s'apprête, comme les États-Unis, à valider une troisième dose pour les personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a annoncé hier. La décision doit être entérinée par la Haute Autorité de Santé dans les heures qui viennent. Ce rappel vaccinal pourrait débuter au début du mois de septembre. Après un week-end marqué par la mort de trois hommes et dans la foulée du maire de Marseille qui réclame en urgence la création d'un parquet national pour lutter plus efficacement contre les trafics de drogue, c'est la procureure de la cité phocéenne, Dominique Laurence, qui a pris la parole hier après-midi, chiffres à l'appui. Elle a dénoncé à son tour une recrudescence des règlements de compte. Clémence Gourdon-Négrini nous appelle de Marseille.
Depuis le début de l'année, il y a eu 15 victimes de règlements de compte à Marseille. Et sur les 15, 12 sont mortes ces deux derniers mois. Dominique Laurence note aussi une explosion de la violence.
Sur les deux affaires de ce week-end, les autopsies ont révélé donc pour l'homme qui avait été enlevé que celui-ci donc était vivant au moment de l'incendie du véhicule. Sur les deux autres jeunes hommes qui ont été tués, on voit vraiment un acharnement véritablement à les tuer.
Des faits d'une extrême violence, insiste la procureure, qui dénonce un cruel manque de moyens pour y faire face.
Nous avons des missions très spécialisées qui nous ont été confiées par le législateur pour les mener à bien sur un très très vaste territoire qui va bien au-delà de Marseille. Nous estimons que nous manquons de moyens à l'heure actuelle en termes de magistrats et en termes de fonctionnaires.
C'est dans ce contexte que le ministre de la Justice est en visite à Marseille aujourd'hui sur le thème de la justice des mineurs, une semaine avant Emmanuel Macron qui doit annoncer un grand plan pour la ville.
À défaut d'une entrée au Panthéon, l'avocate Gisèle Halimi aura droit à un hommage national aux Invalides Saïd. L'année prochaine, c'est un engagement du chef de l'État. Avocate militante des droits des femmes et de la lutte, entre autres pour l'indépendance algérienne, Gisèle Halimi est décédée il y a maintenant plus d'un an. C'était le 28 juillet 2020. Enfin, sachez qu'à 13h, heure française, débutera aujourd'hui à Tokyo, au Japon, la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. 4400 sportifs en lice et pas de public dans les stades pour des questions sanitaires liées évidemment à la pandémie de Covid-19. La météo de ce mardi 24 août 2021, la grisaille dominera de la Bretagne au Massif central. Il y aura des orages à l'est du Rhône et sur les Pyrénées, partout ailleurs tout de même. La journée s'annonce bien ensoleillée, les températures de 12 à 22 degrés ce matin, de 20 à 31 degrés cet après-midi. Gabriel Oliver Aiguillon.
Ben oui, Olivier Doré,
je vois pas encore l'automne.
Pourtant, est-ce que demain une meilleure nouvelle peut-être? On ne sait pas.
Hein. Ah, je ne sais pas.
Ok, bon. Vous revenez à midi.
Surprise, oui, à midi.
Et puis nous, on se voit demain à 8h pour le journal du petit matin.
C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Oliveira Guyon, Musique Matin.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi France Musique pour commencer votre journée. Bienvenue si vous nous rejoignez, que vous soyez encore en vacances ou déjà de retour chez vous. Dans 30 minutes, nous recevrons dans notre studio le contre-ténor Damien Guillon pour ses prochains concerts, entre autres ce vendredi à Sinfonia en Périgord pour l'oratorio de Stradella, San Giovanni Battista, qu'il avait déjà gravé au disque, ou encore ses concerts à Ambronay et une tournée Endel. Et puis, à 8h10, dans quelques minutes, nous poursuivons notre Tour de France des festivals et nous nous arrêterons quelques instants au festival de Sablé-sur-Sarthe. Et puis à 8h25, notre place à la création, notre rubrique qui se consacre à la musique d'aujourd'hui, aux musiques d'aujourd'hui et aujourd'hui la composition. Compositrice et performeuse, également grande interprète des ondes Marteneau, Nadia Ratsimandressi. Très bonne matinée et évidemment, soyez prudents si vous écoutez la radio sur la route.
Thank you.
La rhapsodie en mi bémol majeur, la quatrième des claviers Stücke, opus 119 de Johannes Brahms, interprété par Jean-Frédéric Neuburger. Jean-Frédéric Neuburger qui sera en concert Mozart, Debussy, Chopin et même une œuvre de lui le 5 septembre à Écouché-les-Vallées dans le cadre du festival Septembre Musical de l'Orne. Un festival qui a donc lieu en septembre, du 3 au 26, sur 4 week-ends avec plein d'artistes comme Yaron Herman, l'Orchestre National de Bretagne, les Métaboles ou encore Henri Desmarquettes. Des concerts aux quatre coins du département de l'Orne, donc. Et puis après l'Orne, le 61, tout de suite, direction la Sarthe, le 72. De France des festivals, cette fois-ci auprès du festival de Sablé-sur-Sarthe qui aura lieu du 26 au 28 août, c'est-à-dire c'est jeudi, vendredi et samedi. Avec nous, la directrice du festival, Alice Orange. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Alors, cette édition 2021 mettra à l'honneur les liens entre le profane et le sacré dans la musique italienne de l'époque baroque. Un festival de musique baroque qui commence cet été, ce jeudi donc, avec du cinéma, la projection du film Farinelli de Gérard Corbio.
Oui, en effet. Alors, on a ce qu'on appelle à côté des concerts et des spectacles, des à côté. Et voilà, le cinéma en fait partie. Et voilà, ça nous semble intéressant aussi de pouvoir proposer au public, non seulement bien sûr de venir en tant que spectateur au spectacle et au concert, mais aussi voilà d'avoir des petits éclairages qui prennent différentes formes, donc soit des films, soit des rencontres, soit des conférences, etc.
Donc ce jeudi, le cinéma à 16h et puis le soir, le concert des talents lyriques avec Christophe Rousset et la mezzo-soprano Ambroisine Bré, une incursion dans les tourments de l'oratorio italien du XVIIe siècle autour des larmes de la Vierge Marie. Vous en avez parlé, 13 manifestations, donc des rendez-vous musicaux, mais pas que. Il y a, comme vous en avez parlé, des conférences et puis des rencontres aussi, des déjeuners sur l'herbe qui donnent bien envie à midi et demi avec plusieurs des musiciens qui viennent au Festival de Sablé cette année.
Absolument, oui, les déjeuners sur l'herbe, c'est des moments voilà précieux de rencontre entre le public et les artistes qui aiment beaucoup d'ailleurs y participer puisque c'est dans un cadre champêtre.
J'imagine.
Aussi y déguster voilà des produits du terroir et puis surtout c'est une façon très informelle, très sympathique et très décontractée pour le public de poser des questions voilà aux artistes qui peuvent aller de la simple anecdote à des questions musicologiques beaucoup plus poussées.
Donc jeudi, vendredi, samedi, dans le cadre de ce festival de Sablé sur Sarthe, avec entre autres Christina Pluart, Philippe Jarouski, Camille Delaforge, Catherine Simon-Pietri, Philippe Hersan. Et puis il y a un spectacle, une création samedi à 18h30, c'est gratuit, c'est rue du Moulin à Sablé sur Sarthe, un dialogue entre musique et danse.
Oui, absolument. Alors, on a toujours des spectacles, des propositions en plein air, gratuites, dans l'espace public savolien. Et là, effectivement, on propose un spectacle qui est très didactique sur la danse baroque, ce qui est important pour nous parce que Sablé a été aussi emblématique de la redécouverte de la danse baroque et des liens aussi entre la danse et la musique. Et là, du coup, les gens pourront venir pour découvrir, assister à un spectacle de danse baroque, mais aussi pratiquer éventuellement quelques pas de gavotte ou de danse voilà, en plein air.
Le Festival de Sablé accueillera en août également la recréation d'un opéra inédit, Les génies ou les caractères de l'amour de Mademoiselle Duval, présenté dans votre festival pour la première fois au public, c'est ça, après sa création en 1736 à l'Académie royale de musique de Paris.
Absolument. Donc ça, c'est évidemment un concert qui nous tient particulièrement à cœur, puisque c'est vraiment l'exhumation d'une œuvre, voilà, qui n'a pas été jouée, comme vous venez de le dire, depuis très longtemps. Donc c'est vrai qu'à Sablé, ça nous tient à cœur, voilà, de pouvoir montrer au public tous les ans une œuvre, voilà, qui n'a pas encore été créée. C'est bien sûr en partenariat avec un ensemble avec aussi le CMBV en l'occurrence là, puisque ça repose aussi sur des recherches musicologiques. Et effectivement, cette Mademoiselle Duval, que les gens connaissent peu, était une femme tout à fait extraordinaire qui a dirigé du clavecin son opéra-ballet à l'âge de 18 ans et qui a pu, voilà, après Jacquet de la Guerre, donner à voir voilà son travail sur la scène de l'Académie royale de musique.
Les génies ou les caractères de l'amour, donc de Mademoiselle Duval par l'ensemble Il Caravaggio et dirigé par Camille Delaforge, ce sera ce samedi 28 à 21h à l'église Notre-Dame de Sablé-sur-Sarthe. Et puis évidemment, depuis plus de 40 ans, vous soutenez l'émergence de la plupart des ensembles baroques qui se lancent dans l'aventure. Entre autres, donc, je viens d'en parler, l'ensemble Il Caravaggio, mais il y en a d'autres.
Oui, il y a par exemple l'ensemble La Française qui travaille vraiment sur l'art rocaille, notamment dans le spectacle qu'on accueille, qui est une rencontre entre la musique vivante et la vidéo. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à Sablé de pouvoir proposer aussi des spectacles qui croisent les différentes disciplines et toujours en gardant bien sûr cette exigence de la musique vivante. C'est le cas avec l'ensemble La Française qui est particulièrement friande de ce genre de rencontres et de créations originales.
Et ils seront entre autres en concert le 27 dans le cadre de votre festival de Sablé-sur-Sarthe. Merci beaucoup Alice Orange d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle les dates de ce festival, 26, 27 et 28 août. C'est donc cette semaine. Très bonne journée et bon début de festival Alice Orange.
Merci, au revoir. Io fui sola, fermo rimando ogni notte, ferma, ferma rimando di mio, sportando tua fermo.
La plainte d'Armide à Rinaldo, extrait du ballet royal des amours déguisés de Jean-Baptiste Lully par les Talents Lyriques, dirigé par Christophe Rousset avec la voix de la mezzo-soprano Ambroise Imbré. Des musiciens en concert donc ce jeudi à 21h au festival de Sablé-sur-Sarthe, concert Les Larmes de la Vierge. Eh bien les festivals, ben nous aussi, France Musique, on est un peu un festival 24h sur 24. Alors nous allons vous proposer tout de suite les concerts auxquels vous aurez droit ce soir. Et oui, à l'affiche des concerts du jour sur France Musique, des concerts inédits cet après-midi, le récital du pianiste Andrei Korobeinikov à 16h, concert donné à la Roque d'Anteron au début du mois d'août. France Musique a enregistré ce moment et ravi de le diffuser tout à l'heure. Concert présenté par Priscille Lafitte. À 20h et 21h30, deux concerts anglais présentés par Anne Montaron. À 20h, les BBC Proms à Londres avec Víkingur Ólafsson, le Philharmonia Orchestra dirigé par Paavo Järvi. Un programme Prokofiev, Bach, Mozart et Shostakovich. Et puis, un peu plus tard dans la soirée, Peter Moore au trombone avec le Royal Liverpool Philharmonic dirigé par Domingo Indoyan. Ça, ce sera donc à 21h30 précisément. Et puis, une fois la nuit tombée sous les étoiles, on vous le souhaite, à 23h avec Lionel Eskenazi qui nous présentera le concert du Hugo Lippi Quartet enregistré il y a quelques semaines au Domaine d'Eau dans le cadre du Festival Roi de France. Occitanie, Montpellier. Alors tout de suite, voici un avant-goût du concert de 20h. Le pianiste Víkingur Ólafsson, que nous aimons beaucoup et qui fait ses débuts au Proms comme soliste, ici par exemple dans le concerto pour clavier en fa mineur de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
8h26, le premier mouvement Allegro du concerto pour piano en fa mineur, BWV 1056 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Víkingur Ólafsson avec le Philharmonia Orchestra dirigé par Paavo Järvi. Un extrait du concert qui vous attend tout à l'heure à 16h et en plus présenté par Priscille Lafitte que demande le peuple, c'est tout bon. Alors à 8h26 toujours, c'est tout de suite notre rubrique Place à la création. Chaque jour, l'écoute d'une œuvre d'un compositeur ou d'une compositrice vivante qui font que la musique se vit au présent et continue d'être créée chaque jour.
Musique Matin.
Ce matin, notre place à la création met à l'honneur la compositrice et performeuse Nadia Ratsimandresi, titulaire des diplômes de formation supérieure d'ondes Marteneau et d'acoustique musicale obtenus au CNSM de Paris en 2002. Nadia Ratsimandresi se consacre à la musique de chambre et au spectacle vivant. Les professeurs d'enseignement artistique d'ondes au conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt. Voici ce matin son œuvre Nuages de 2018 qu'elle compose après le décès de son père. Nuages comme un voyage métaphorique, un rapport au ciel avec une musique, vous allez l'entendre, de nappes sonores planantes qui invite à l'apaisement. Elle nous a dit hier préférer que quelqu'un n'aime pas du tout sa musique plutôt qu'il ne ressente rien. Ici, elle a essayé de retransmettre le geste dans le son car le geste dans l'interprétation est très important pour elle, un rapport au corps pour se donner, pour donner de la musique. Et paradoxalement d'ailleurs, les autres pièces de son disque sont un peu plus conquérante et dans sa musique de manière générale, sa musique a un côté un peu cinématographique, assez empathique. Elle a enregistré cette pièce Nuages à New York sur une dizaine de jours, beaucoup de temps pour parfaire l'enregistrement et avec plusieurs instruments que lui a proposé son directeur de studio Tom Doncourt. Vous allez entendre là aussi des vieux synthés, des vieux Moog, des ondes Marteneau évidemment, des flûtes chinoises, des objets sonores en tout genre, certains avec un son qui craque parce que évidemment un peu vieux. En ce moment, Nadia Ratsimandresi est en résidence en Lozère, dans la ville de Mende, et elle a des projets de création, de diffusion, et aussi en résidence aux côtés d'Annabelle Plaille pour des projets musique et danse. Voici donc Nuages sur France Musique. Nappe sonore planante de Nuages, cette œuvre de 2018 composée par Nadia Ratsimandresi. 8h30 tout juste sur France Musique, il est temps maintenant d'accueillir notre invité en studio.
Musique Matin, le 7h30-9h de Gabriel Olivier Aguillon.
Et à mes côtés dans le studio, Damien Guillon. Bonjour.
Bonjour.
Contre-ténor, directeur musical de votre ensemble Le Banquet Céleste et directeur musical en général. Merci d'être avec nous ce matin avant votre concert ce vendredi au Festival Sinfonia en Périgord. À 21h, vous redonnerez cet oratorio San Giovanni Battista d'Alessandro Stradella. un opéra spirituel, une histoire sacrée, tout ça bien sûr avec votre ensemble Le Banquet Céleste et une belle distribution. Alors vous l'avez donné cet été en version de concert, mais là on va retrouver ce que vous avez donné il y a déjà plusieurs années avec scénographie, costumes, lumière et puis la mise en scène de Vincent Tavernier. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous décrire cette production, cet oratorio mise en scène, qu'est-ce que ça donne ?
Oui, alors c'est une production assez particulière, d'abord par la musique de Stradella, qui est pas un compositeur des plus connus. L'oratorio a été écrit en 1675 à Rome, et Stradella est bon, c'est un compositeur qui a eu une vie un peu dissolue, mais qui a été quand même un compositeur assez majeur à son époque, et notamment pour ses oratorios, il en a écrit plusieurs, tous à Rome, et cet oratorio est un peu écrit comme un petit opéra, c'est-à-dire donc il s'agit de Saint Jean-Baptiste qui se rend à la cour d'Hérode pour en gros dire à Hérode qu'il vit dans le péché, etc. Et essayer de le convaincre de suivre les lois de Dieu, de mener une vie plus pure.
Et plus vertueuse.
Voilà, absolument. Et cette musique est extrêmement théâtrale. Stradella utilise vraiment tous les ingrédients qu'on commence à trouver à l'opéra à l'époque.
C'est-à-dire l'alternance des airs.
Exactement, alternance d'airs, beaucoup de récitatifs, ouais. Mais beaucoup d'aria aussi. Et puis une écriture musicale qui est un peu en transition entre des compositeurs comme Cavalli et puis qui commence à annoncer aussi ce qu'on va trouver plus tard chez Handel, ce que l'on trouve un peu plus tard chez Corelli aussi. Je parle de Corelli notamment pour l'utilisation de l'orchestre, puisqu'il utilise un peu un double orchestre comme ça, avec Concerto Grosso et Concertino qui dialoguent, donc un petit orchestre qui dialogue avec un plus grand, et ça crée beaucoup d'effets ça vient souligner en tout cas tous les affects de théâtre.
Ouais. Une version scénique donc qui rend justice un peu au qualité dramatique baroque de cette théâtralité. En fait,
ouais,
de cet
tout à fait. Oui. Et effectivement, on a décidé de faire cette mise en scène il y a quelques années. C'était un projet avec Angers Nantes Opéra et puis l'Opéra de Rennes où nous sommes en résidence. Mmh. Et Vincent Tavernier a créé comme ça un décor qui s'intègre très bien dans des églises. On a joué uniquement dans des églises. Et je suis très heureux de reprendre cette production parce que je pense que je trouve que cette mise en scène et le travail que fait Vincent vient vraiment souligner ce que Stradella a essayé de décrire dans son œuvre.
Mmh. Et donc ce sera en l'église de la cité de Périgueux à 21h ce vendredi 27 dans le cadre du festival Symphonia en Périgord. Damien Guillon, c'est un resserrement aussi de l'action, il n'y a que 6 solistes, il n'y a pas de chœur du tout.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir ce regard extérieur du chœur qui analyse un peu ce qui se passe, en tout cas là dans l'histoire de ce Saint Jean-Baptiste. Et là c'est vraiment très resserré.
Exactement, c'est très resserré et en fait il y a quelques ensembles qui sont écrits, qui sont d'ailleurs très beaux, mais qui sont chantés par les solistes et on est sûr que c'était le cas aussi
les chœurs,
à l'époque.
Mais voix unique.
Si exactement. On sait que c'était le cas à l'époque parce que sur le manuscrit, les noms des personnages sont écrits sur les différentes voix des ensembles, donc c'était très clair que c'était chanté par les solistes. Et donc effectivement, ils ont un peu cette double casquette à la fois de personnages et aussi de commentateurs parfois.
Damien Guillon, cet oratorio San Giovanni Battista de Stradella est sorti de l'oubli assez tardivement, en fait, dans les années 50.
Oui,
c'est ça.
Ouais,
et
oui,
c'était Maria Callas qui était la Salomé.
Oui, c'est ça, apparemment. Et effectivement, c'était ça a fait partie de. Il y a eu tout un mouvement dans les années 50, 60 où on a commencé à redécouvrir cette musique du 17e. Et effectivement, apparemment, Maria Callas a chanté ce rôle. Donc voilà, je crois pas qu'il y ait de traces, malheureusement, d'enregistrement, mais c'est assez savoureux de se dire ça, oui.
En tout cas, elle était Salomé qui demande la tête de Jean-Baptiste.
Absolument, oui. Et on a dans l'oratorio, Stradella les appelle Herodia de la Madre et Herodia de la Filia.
C'est ça, c'est pas Salomé.
C'est Herodia pour les deux. Et ça souligne encore plus cette espèce de monstre à deux têtes, un peu, entre la mère et la fille, qui viennent demander la mort de Jean-Baptiste en manipulant le roi Hérode qui apparaît vraiment comme un roi un peu faible.
Ce Salomé qu'on retrouve aussi chez Strauss,
exactement.
Avec cette fin de vie, décapitation de Saint Jean-Baptiste. Une partition raffinée, théâtrale, vous l'avez dit. On va en écouter un extrait puisque vous l'avez enregistré, cet oratorio, en 2020 pour Alpha. Voici la Symphonia numéro 2 de cet oratorio.
Thank you.
à 8h38 sur France Musique, la deuxième symphonia de l'oratorio San Giovanni Battista d'Alessandro Stradella, interprétée par le Banquet Céleste, dirigé par Damien Guillon, notre invité ce matin, un oratorio créé en 1675 et que donc vous donnerez ce vendredi dans le cadre du festival Symphonia en Périgord. Et puis donc ce disque paru chez Alpha l'an dernier, une version au disque existait déjà qui datait de 92, celle de Marc Minkowski,
oui, absolument,
avec
oui.
Les musiciens du Louvre. Vous vous en êtes inspiré ou au contraire?
Oh, écoutez, je la connais bien sûr, je l'ai écoutée. C'est aussi comme ça que j'ai découvert l'œuvre. À la fois par le disque et puis aussi avec la partition lorsque j'étais étudiant au Centre de musique baroque de Versailles, puisque la partition était là-bas, notamment. Et donc oui, je l'ai écoutée, notamment parce que j'ai toujours été un grand fan de Gérard Lenne qui chantait le rôle de Jean-Baptiste dedans. Oui.
Stradella, donc un compositeur, vous en avez un peu parlé, qui est un aristocrate italien, né en 1643, et puis une vie assez particulière, et qui donc lui-même est devenu un personnage de plusieurs opéras.
C'est ça, oui. Bon, une vie assez dissolue. Malheureusement, il a été plus connu pour sa vie dissolue que pour sa musique jusqu'à il y a peu. Effectivement, c'était un homme qui avait une vie assez dissolue et qui a eu pas mal d'affaires de mœurs tout au long de sa vie, puisqu'il aimait un peu trop les jeunes femmes. Il enseignait beaucoup à des jeunes femmes de manière privée, disons. Et je crois qu'il est tombé amoureux, ou en tout cas il a eu une histoire avec une jeune femme qui était mariée, et son mari a finalement décidé d'engager des tueurs à gages. C'était pas la première fois que ça lui arrivait. Il a failli déjà être tué une première fois, et là il en est mort effectivement en place publique
en 1682 à l'âge de 38 ans. Et donc par exemple César Franck en a fait
absolument
une œuvre qui donc se consacre à ce compositeur Stradella. Damien Guillon, vous serez donc à Symphonia en Périgord, mais vous serez également dans le cadre du festival d'Ambronay avec des œuvres de Monteverdi, de Gabrielli. On reste là avec les compositeurs italiens. Cette fois-ci, des œuvres qui nous plongent au cœur de la basilique Saint-Marc de Venise. Venise où d'ailleurs Stradella a un petit peu travaillé.
Oui, absolument. Stradella était aussi à Venise quelques années. Effectivement, aussi un programme de musique italienne, alors sacré cette fois. Oui. J'ai souhaité mettre un peu en miroir deux des plus grands compositeurs du début du baroque, enfin de la fin de la Renaissance et du début du baroque, avec Gabrielli qui a été maître de chapelle à Saint-Marc et puis Monteverdi qui lui a succédé. Et on sait qu'à l'époque de Monteverdi, on continuait à jouer les pièces de Gabrielli, donc la musique de Gabrielli a continué à résonner dans cette église. Et ça me semblait intéressant de mettre un peu en miroir ces deux compositeurs, de voir quelle est la filiation, aussi l'évolution de l'écriture musicale tout au long de ce XVIIe siècle. Et donc oui, un très beau programme avec des extraits des Salva Morale de Monteverdi et puis aussi quelques motets de Gabrielli. Ouais.
Un programme donc donné le 12 septembre à 17h en l'abbatiale d'Ambronay. Et d'ailleurs, je pense à un concert diffusé par France Musique,
oui,
en
absolument,
tout cas,
ouais.
Capté par nos équipes techniques. Alors, on va quitter l'oratorio, la musique sacrée, on va quitter l'Italie, même avec un compositeur, lui non plus pas très connu, un peu comme Stradella, Erlebach, Philipp Heinrich Erlebach, un compositeur allemand, né en 1657, avec des leaders. Alors évidemment, c'est pas des leaders comme on les entend, avec une mélodie voix-piano. Là, c'est quoi en fait? Quelque chose d'assez élaboré, des airs?
Oui, alors c'est un peu moi qui ai décidé d'appeler ça des leaders, mais on pourrait aussi dire que ce sont des airs, effectivement. En fait, Erlebach était un compositeur qui a écrit beaucoup de musique, mais malheureusement, il était en poste dans un château qui a brûlé au XVIIIe siècle, donc une grande partie de sa musique a disparu. Il reste quelques pièces vocales, et notamment un recueil de pièces qui sont de une à quatre voix, chanteur et instrument. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer que effectivement il y a une sorte de filiation entre cette musique au XVIIe siècle et puis ce qu'on va connaître beaucoup plus tard du lead de la forme piano et chant.
Il y a un lien.
Moi je trouve qu'il y a un lien. En tout cas c'était de la musique qui était jouée dans les salons comme le lead qui était destiné justement à être joué dans un cadre assez intime. Mmh. Et donc dans ces pièces de Erlebach, on trouve des effectifs instrumentaux très variés, parfois simplement une basse continue, parfois justement des instruments qui sont ajoutés et des airs qui parlent, qui sont soit poétiques, soit qui parlent de sujets d'actualité, voilà, de sujets moraux parfois. Voilà, une musique en tout cas qui est très intéressante, je trouve. Ouais.
Et alors justement, il est plus ou moins contemporain avec Stradella. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait les relier ou vraiment pas du tout?
Oh, on est quand même dans deux univers très différents. Ce qui pourrait les relier, c'est que la musique italienne était très connue en Allemagne. On connaissait très bien le style italien. Et on le retrouve chez Erlebach, certaines pièces qui sont vraiment écrites dans le style italien. Ouais.
On va vous écouter, Damien Guillon, avec votre banquet céleste dans ce lied, donc cet air, Ich rühme mich nicht, Rauer Werke. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je ne sais plus exactement.
Très bien. Alors, Philippe Heinrich Erlebach, on va trouver ça pendant le disque.
Ich rühme mich nicht, Rauer Werke. Ich gebe mir nicht nicht für den heißen Hand. Mein Herz ist nicht von solcher Stärke, dass es stille Tönen überwinden kann. Meine Freiheit zu beschützen, bin ich nicht allzu sehr bemüht. Und da verlang ich nicht zu sitzen, wo man gar keine Regung sieht, wo man gar keine Regung sieht.
La voix du contre-ténor Damien Guillon, notre invité ce matin, accompagné par son ensemble, le Banquet Céleste, dans ce Lied, cette air, Ich rühme mich nicht, Rauer Werke. Nous avons trouvé, évidemment, avec Damien Guillon, je ne me glorifie pas d'être âpre au travail. Ça, c'était la traduction de cette œuvre de Philipp Heinrich Erlebach, un extrait de votre disque qui se consacre justement à ce compositeur. Comment vous travaillez? Parce que c'est vrai que vous abordez souvent des compositeurs un peu méconnus. Vous travaillez vous-même dans les recherches musicologiques, vous fouillez?
Oui, je fouille et puis alors parfois c'est aussi des compositeurs dont j'ai croisé la route il y a quelques années et puis les programmes mûrissent un peu. Par exemple, ce compositeur Erlebach, j'ai dû faire le premier concert de ce programme en 2006 ou 2007. Et puis voilà, ensuite j'ai un peu mûri le programme et pour en faire un disque aujourd'hui. Ouais.
Et puis il y a également des pièces instrumentales.
Exactement.
Vous avez fondé votre Banquet Céleste en 2009, un travail minutieux sur le répertoire baroque. Ça fait donc 12 ans. Quel regard, Damien Guillon, avez-vous, avec le recul sur votre, justement, ce travail? Est-ce qu'il y a des envies nouvelles auxquelles vous n'auriez pas pensé il y a quelques années?
Ah oui, alors ça, c'est toujours très difficile pour moi de faire un peu le backup comme ça, mais en tout cas, oui, les envies, c'est d'aller plus vers la direction. Alors, oui. Non pas que je n'arrive plus à chanter, parce que parfois on me le dit, tu n'arrives plus à chanter, c'est pour ça que tu diriges.
Mais c'est vrai,
non.
Que par exemple, dans l'oratorio de Stradella que vous allez donner, oui, le vendredi à Sophonie en Périgord, vous ne chantez pas.
Non, je chante pas, effectivement. Alors, j'aurais pu chanter le rôle de Jean, oui, de Jean-Baptiste, mais c'est un rôle qui est un peu grave pour ma voix, et donc j'ai préféré laisser ça à quelqu'un qui soit vraiment à l'aise dans le rôle,
qui est
Paul-Antoine Benos, un jeune contre-ténor qui est magnifique. Et puis effectivement, cette envie de diriger, elle est présente chez moi depuis l'adolescence, et donc c'est voilà, ça fait partie des projets que je mets en place petit à petit,
d'être plus dans la direction,
d'être à la fois dans la direction pour des projets un peu plus avec des effectifs un peu plus importants, et puis de conserver quand même cette part de chant dans les programmes de musique de chambre. Plutôt.
Mais est-ce que vous continuez à travailler votre voix?
Oui, bien sûr.
À prendre des cours?
Ah oui, parce que sinon j'arrêterais de chanter complètement. Mais effectivement, je continue à travailler ma voix. Et puis la voix évolue avec le temps, avec l'âge et tout ça. Mais plutôt pas mal jusque-là, donc ça va.
Damien Guillon, vous parlez de projets un peu plus conséquents. Bien justement, une grosse actualité à venir, votre tournée Rinaldo, opéra Syria,
oui,
de Handel, avec justement toujours l'ensemble Le Banquet Céleste, que vous dirigerez depuis le clavecin, donc vous ne chanterez pas. Encore une fois, ça ira, la première représentation le 27 septembre à Rennes, et puis la dernière le 14 novembre à Tourcoing, entre-temps plein de dates. Évidemment, c'est pas la première fois que vous dirigez Handel, vous avez déjà dirigé à Assis et Galatée il y a quelques années.
Oui, absolument. Oui, ça, c'était une très belle expérience. C'était le premier opéra que je dirigeais de ma vie. Et aussi le premier opéra de Handel. Et là, je suis très heureux de diriger Rinaldo. D'abord, parce que c'est une œuvre vraiment magnifique, flamboyante, et vraiment un opéra parmi les plus beaux de Handel, je trouve. Et il s'agit en fait d'une reprise de production. C'est une production qui a été créée il y a quelques années par la coopérative, qui est un groupement de scènes nationales, mm-hmm, et d'opéra, de maisons d'opéra. Et ça a été une volonté notamment de l'Opéra de Rennes, où nous sommes en résidence, de reprendre cette production cette année. Ça avait été créé avec un autre ensemble, l'ensemble de Bertrand Cuiller, qui avait fait un magnifique travail. Et je suis très heureux de m'inscrire dans cette production aujourd'hui.
Et ouais, de poursuivre la tournée. Donc Rennes a commencé donc le 27 septembre, et puis ensuite Besançon, Sénart, Quimper et donc Tourcoing. Et puis Damien Guillon, vous nous parliez là pendant le 10, pendant qu'on cherchait la traduction de cette air.
Oui, vous avez vu que mes neurones allemands était pas connecté encore.
Et bien là, il y aura peut-être des neurones anglais, puisque Purcell, c'est le compositeur de votre prochain disque.
Oui, absolument. Oui. Ça a été un disque un peu de confinement, entre guillemets.
Ah oui.
On a enregistré en février dernier donc des odes de Purcell. Alors là aussi, j'ai un peu choisi, pas forcément les odes les plus connues, mais il y a toute une série d'odes de Purcell avec des effectifs relativement réduits, et qui sont absolument magnifiques, très peu joués.
Est-ce que vous y chanterez là?
Alors là, j'y chante un peu, oui. J'y chante un peu, justement, en compagnie de Paul-Antoine aussi, et avec une très belle équipe de chanteurs. Voilà, je me réjouis de ce disque. Ouais.
Merci beaucoup, Damien Guillon. Je rappelle vos prochains concerts, donc le 27 à Sinfonia en Périgord pour l'Oratorio San Giovanni Battista de Stradella, et puis au Festival d'Ambronay le 12 septembre, musique à Saint-Marc de Venise, et puis donc cette fameuse tournée Handel au courant de l'automne. Une dernière question, Damien Guillon, que l'on pose à chacun de nos invités. Les auditeurs l'attendent impatiemment, votre réponse. Vous iriez où, avec qui et en écoutant quelle musique?
Oh, ça va être très simple. Je dirais, disons, dans un jardin imaginaire assez luxuriant. Je dis imaginaire parce que j'ai pas de jardin encore, et... mais ça viendra. Jardin imaginaire, luxuriant, avec qui, je dirais, avec mes proches, avec mes proches les plus, voilà, les plus intimes. Et en écoutant quoi, ça c'est très très difficile. Mais je dirais une playlist des Beatles, voilà.
Merci beaucoup, Damien Guillon. Bon concert à venir. Et puis, à très bientôt pour Purcell et
Maître. Merci beaucoup.
Bonne journée. De contre-ténor Thou Art Gone Up on High par Damien Guillon avec le concert des Nations dirigé par Jordi Savall, cet air extrait du Messie de Handel. 8h57, à nous maintenant de vous donner la réponse à notre jeu de 7h50 comme chaque matin. Et bien ce matin, il fallait répondre 1985. William Christie a acheté sa propriété à Tiré où a lieu actuellement son festival dans les jardins de William Christie. C'était en 1985. Bravo au gagnant Nicolas à Metz, Carole à Verdun ou encore Elisabeth à Berck. Et puis de toute façon, merci en général à vous qui participez chaque matin. Il y a des noms qui apparaissent chaque jour tout l'été. Merci beaucoup pour votre fidélité. Demain, nous recevrons dans Musique Matin la pianiste Maroussia Jantet pour son récital très bientôt à Royaumont. Merci à toute l'équipe de Musique Matin. Margot Muller, Marion Guimet et Flora Sternadel qui m'aident à préparer cette émission. Les oreilles attentives de notre réalisatrice Taïsia Froidure et à la technique avec nous ce matin, Victorien Hodge, Jean Frédérics et YouTube Diego Ac Lopez. Je vous retrouve demain pour Musique Matin à 7h30 et tout de suite de 9h jusqu'à midi, Judith Chen. Bonjour Judith.
Bonjour Gabriel.
Alors, votre programme, on peut avoir un petit avant-goût ?
Oh, écoutez, on va voyager, on va traverser les mers. Oui, quelque chose d'assez, peut-être comme ça, un peu liquide.
Ah bah, très bien, on va rester à l'écoute. Merci Judith.
À demain.
Bonne émission.
À réécouter sur francemusique.fr.